Beurre FM, 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serrat.
Salam alaikum mes amis, vous m'avez manqué, mes camarades, ça fait plus d'un mois que je ne vous ai pas retrouvé en direct et il s'en est passé des choses
depuis. Vous voulez qu'on parle pour qu'on dise pourquoi, Maître Serrat? Est-ce que vous voulez, vous tenez vraiment à ce que j'explique pourquoi vous n'étiez pas là?
On pourrait en parler, moi je suis transparent.
Ah bah alors, ça c'est le cas de dire.
Je voulais en vérité, mon cher Philippe, vous parler initialement de mon escapade à Razaouet, hein. Vous savez, je suis parti à Razaouet, mais compte tenu de l'actualité.
Ça a duré plus longtemps que prévu.
C'est vrai, mais compte tenu de l'actualité, je vous parlerai de Razaouet la semaine prochaine. D'abord, je souhaiterais rendre hommage aux victimes de l'attentat d'hier en Égypte. Dans une mosquée, frère, un vendredi. Merci les islamistes. Allez, encore un petit effort et je sais que vous pourrez faire encore plus fort dans l'horreur. Non, j'en ai marre, moi, mon cher Philippe, de cette violence au quotidien. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes depuis l'affaire Weinstein. Pas un jour sans qu'une célébrité ne soit mise en cause. Eh, c'est chaud, frère. Hein. Toutes les femmes à qui tu as eu la mauvaise idée de mettre une main aux fesses vont te dénoncer. Ah, tu peux plus rien faire. Ne souris pas à une femme, ne lui demande pas l'heure, ne lui propose pas de boire un verre ou un resto, malheureux. Si t'as le malheur de la frôler dans le métro, c'est les assises qui t'attendent. Non, mais c'est vrai, mon cher Philippe. Elles ont pas toutes été harcelées, quand même. Eh, il y a quand même un paquet de moches parmi celles qui se plaignent. Alors, je me suis demandé, mon cher Philippe, si éventuellement, non pas les femmes, car Maître Serrat a toujours été un gentleman, mais les maris de nos auditrices n'allaient pas me poursuivre en justice pour séduction abusive de leurs épouses. Car il se dit, mon cher Philippe, étude confirmée par la NASA, il se dit que les femmes de nos auditeurs écoutent en podcast les interventions de Maître Serrat, car paraît-il, ma voix leur provoquerait une sensation jamais connue avec leur partenaire. Bon, d'accord, allez, j'exagère, mais voilà ce qui m'est arrivé lundi, c'est vrai. Un chébanais vient accompagné d'une jeune demoiselle. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Et c'est pas mademoiselle, c'est madame, elle est mariée avec mon fils. Oh, oh, doucement, aimé. C'est faire trop d'honneur à ta belle-fille que de penser, ne serait-ce qu'un millionième de seconde, que Maître Serrat, celui dont les cellules, écoutez bien mon cher Philippe, dont les cellules ont été cryogénisées pour peupler éventuellement d'autres galaxies, ce serait un honneur que de penser que je m'intéresse à ce paquet qui te sert de belle-fille, ou alors peut-être pour la disséquer afin de comprendre comment on peut avoir une moustache plus imposante que celle du sergent Garcia quand on est une femme. Hein, t'as les boules là, hein, chez Banet, t'as les boules. Bon, pardonnez-moi mon cher Philippe, j'aime pas m'emporter. Mais pourquoi je m'emporte? Je ne supporte plus d'être un symbole sexuel. Alors évidemment, vous pouvez pas comprendre ça.
Ah non, alors là, quelque chose m'échappe.
Il y a qu'à vous voir. Allez, oublions les problèmes pileux de cette pauvre fille. Oui. À vous de prendre la parole au 01 53 48 3000. Émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, Beurre FM. C'est tout droit, c'est parti.
Bon, tout le monde, vous avez bien raison d'y croire, Maître Serrat. Parce que d'accord. Plus vous y croyez, et plus, voilà, mieux c'est pour vous, pour votre vie. C'est plaisir. C'est que la gastro est arrivée très tôt cette année. Et Maître Serrat a été un des premiers à l'attraper.
Ah, je l'ai inauguré. Ouais. Je l'ai inauguré, donc effectivement. Donc, maintenant que toute la tuyauterie est remise à plat.
C'est pour ça qu'on vous a mis du côté des toilettes cette semaine. On vous a mis dans le tabouret, parce que au cas où il y a, je suis prêt à vous relayer, s'il y a une urgence, Maître Serrat, je meublerai.
Ah bah écoutez, alors.
Ça pour vous.
Non mais là, je suis guéri là.
Ouais, le chocolat c'est pas conseillé, le lait c'est très moyen pour ça.
Paraît-il.
C'est pas bien du tout.
Hein, paraît-il.
Audrey.
Bon, je vais goûter pour voir.
Ouais, allez-y. Ouais, sous contrôle de l'imam Abdelali Mamoun.
Qui a connu ça lui aussi, c'est un grand spécialiste aussi de la gastro. Ça va. On attaque quand vous voulez.
Bien. Maître Serrat, c'est un sujet qui est réchauffé puisque, on a assisté à la délocalisation du tribunal de Bobigny, puisqu'aujourd'hui, à l'aéroport de Roissy, des étrangers sont jugés sur ce qu'on appelle le tarmac. Alors, est-ce que la justice peut-elle s'effectuer sur le tarmac,
c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on veuille ou non. Alors, voyez, nous on parle du sujet, mais ça mobilise pas les foules hein, pour que nos auditeurs comprennent. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent via Roissy, qui sont en situation irrégulière, sont placés dans ce qui s'appelle d'abord une zone d'attente, et ensuite on les met éventuellement, alors soit on les libère immédiatement, soit on les place dans ce qui s'appelle le centre de rétention. Et au bout de 48 heures, depuis la nouvelle loi, on passe du centre de rétention qui est à Roissy au tribunal de grande instance de Bobigny, donc c'est la juridiction, j'allais presque dire officielle, où ces personnes donc passent devant un juge qui s'appelle le juge des libertés et de la détention. Il se dit du côté du ministère de l'Intérieur que tout ça coûte des sous, puisque ces personnes-là, donc faut les encadrer avec des policiers, avec des CRS, et faut faire la navette entre le centre de rétention et le tribunal de grande instance de Bobigny. On a donc eu des politiques qui ont eu la curieuse idée de se dire, bah, dans ce cas-là, on va faciliter les choses. Lorsque les personnes sortent de l'avion, on les place en zone d'attente, éventuellement le centre de rétention, et puis, tant qu'à faire, on va les juger sur place. C'est-à-dire qu'il faut comprendre concrètement de quoi on parle. On parle de locaux qui constituent donc le tribunal de grande instance de Bobigny. Des locaux qui sont partagés donc avec l'administration, qui place ces personnes en centre de en zone d'attente et à côté de locaux de police, c'est la police de l'air et des frontières. Alors ce qui est troublant, c'est quoi? C'est que ces personnes atterrissent à Roissy, on va les juger à Roissy même. C'est troublant pour tout le monde. Alors troublant d'abord pour ces personnes qui comprennent pas dans quelle situation on se trouve. Alors il faut savoir que on a des personnes qui sont en détresse, on a des personnes qui parlent pas bien la langue, qui arrivent, qui sont encadrées par des policiers, qui voient un pauvre, et rien de péjoratif dans ma bouche, un pauvre magistrat dans des locaux alors que qu'à l'extérieur et à l'intérieur on a des policiers. Donc on peut légitimement se poser la question savoir si vraiment ces personnes se sentent véritablement jugées par un magistrat.
Bon, ça pose une autre question, Maître Serrane. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, la justice peut être rendue n'importe où?
Non, c'est toute la difficulté. Vous voyez, on a beaucoup de personnes qui vont parler. Non, non, évidemment que non. On parle de justice d'exception. C'est quand même important. Il faut savoir dans quel contexte on est. C'est-à-dire que vous avez un magistrat qui est tout seul. Et les magistrats, comme les avocats, ont parfois besoin de se rapprocher de l'un de leurs collègues pour éventuellement avoir peut-être un autre son de cloche. Là, vous avez un magistrat qui est tout seul. Vous avez des avocats qui travaillent dans des conditions pas possibles. D'abord, je peux vous assurer que pour trouver la localisation de cette annexe du tribunal de grande instance, il faut se réveiller de bonne heure. C'est-à-dire que c'est très mal indiqué, que les avocats travaillent dans des conditions pas possibles. C'est-à-dire que vous n'avez même pas une photocopieuse à votre disposition, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de fax, vous n'avez pas d'imprimante. Ce sont des procédures où les avocats prennent des écritures concrètement, c'est-à-dire qu'on prend des arguments qu'on soumet par écrit à l'avocat de la préfecture, qu'on soumet par écrit au magistrat. Bon, quand vous n'avez pas d'imprimante, quand vous ne pouvez communiquer avec personne parce que vous n'avez pas de fax et vous n'avez pas d'ordinateur, ça pose quand même difficulté dans la manière dont cette justice est rendue.
Est-ce que c'est nouveau en France ?
Alors, en la matière, en tout cas, pour les étrangers, là, c'est nouveau. Il faut savoir que c'est un vieux projet, hein, ça remonte à 2003. On en a parlé, des avocats se sont mobilisés. Ensuite, on avait eu à l'époque Madame Taubira qui avait suspendu le projet. Et puis, alors, moi c'est ça ma déception, c'est que ça a été remis au goût du jour sous le gouvernement Macron. Moi je pensais sincèrement, encore une fois, comme beaucoup, j'avais beaucoup d'espoir, mais en la matière on a beaucoup de désillusions. Donc ça revient sous Macron et cette fois-ci c'est officialisé. Donc c'est vraiment problématique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Encore une fois, quand on parle d'une justice d'exception, c'est pas le hasard. C'est-à-dire que ça concerne une catégorie de personnes dont tout le monde se fiche royalement, les étrangers en situation irrégulière. Si vous avez bien écouté les discours de Macron, il y a un moment il parlait de hotspot, c'est-à-dire qu'il soumettait l'idée selon laquelle ce serait peut-être encore mieux d'éviter que ces étrangers viennent sur le territoire français et qu'on fasse le tri entre guillemets de ces étrangers, mais directement des pays d'origine, donc il y aurait des sortes de zones où les étrangers qui souhaitent venir sur le territoire français seraient entre guillemets filtrés, donc comme ça il n'y a même plus besoin qu'ils puissent venir sur le territoire français. Ce qui m'inquiète, c'est que cette situation qui est gravissime dans un pays comme la France mobilise les magistrats, puisqu'il faut savoir que les magistrats sont opposés à ça, mobilise les avocats et en particulier les avocats de Bobigny qui ont toujours été à la tête de cette bataille. Au niveau de l'opinion publique, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est un peu ça qui m'inquiète. Encore une fois, on est en train de cacher ces personnes et d'éviter même que monsieur, madame, tout le monde dans un tribunal, puisqu'il faut savoir que les audiences sont publiques, bah comme ça vous aurez même plus à croiser. Donc c'est paria, puisqu'on peut parler de paria. On atterrit, on est jugé directement sur le tarmac à l'aéroport, et puis éventuellement un avion vous ramènera dans votre pays d'origine. Donc voilà. voilà, il faut quand même que ceux qui nous écoutent considèrent que dans un pays comme la France, c'est particulièrement grave d'instituer ce qu'on appelle, et le terme est juste, une justice d'exception pour ces pauvres étrangers.
Maître Serran répond à vos questions, vous le savez, c'est tout droit, jusqu'à midi, 01 53 48 3000, notez bien ce numéro, c'est le numéro du standard de Beurre FM que vous composez, et Maître Serran répond à toutes vos questions, et c'est Malika qui vous appelle du Kremlin Bicêtre. Maître Serran, bienvenue Malika.
Allô, bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, je voudrais vous poser une question s'il vous plaît. On est tous nés en France, on est partis très jeunes en Algérie. Et on est tous revenus, mais j'ai une sœur qui est restée là-bas. Elle est restée quand mes parents étaient vivants et ma mère est décédée il y a presque 8 mois, presque un an là. Et j'ai une sœur qui est née en 63. Hein, 1963, chaque fois qu'on fait une demande de visa, ils ne nous le donnent pas, et nous, on vit tous en France, elle est seule, malade en Algérie. On voudrait la ramener ici, il paraît qu'elle avait droit parce qu'elle est née en 63, avant l'indépendance.
Alors que les frères et sœurs soient nés avant l'indépendance, il n'y a pas de difficulté, mais là je crois que vous me dites qu'elle est née en 1963, c'est ça?
Oui, voilà.
D'accord. J'ai cru comprendre ou entendre qu'elle était souffrante ou qu'elle était malade.
Oui, elle est malade, elle est suivie par un psychiatre en Algérie.
Ouais.
Elle est trouvée maintenant seule sans famille parce qu'on vit tous en France, toutes les sœurs, le frère est en France.
Alors,
et ma mère est décédée il n'y a pas longtemps.
D'accord. Alors, l'argument qui consisterait à dire que tous les membres de la famille sont sur le territoire français et il y a ou il y aurait un frère, une sœur qui est seul sur le territoire algérien ou autre, hein, ça s'applique pour les autres pays, en soi, ça ne justifierait pas que les autorités françaises puissent autoriser votre sœur à venir sur le territoire français. Vous voyez, l'argument consistera à dire oui, mais moi je suis seul en Algérie, on va dire oui, enfin voilà, après c'est votre problème, débrouillez-vous. Donc en soi, vous ne trouverez jamais un texte qui puisse aller dans ce sens-là. Maintenant, il est certain que vous avez quand même des éléments, en tout cas votre sœur a des éléments, et moi je me raccrocherai plutôt sur ce que vous avez dit, sur peut-être l'aspect médical, c'est-à-dire que là le suivi qui concerne votre sœur, et j'ai cru comprendre que c'était un suivi de nature psychiatrique, alors vous avez l'impression, alors pour l'instant c'est d'abord votre impression, après les autorités préfectorales peuvent s'interroger, que elle dispose du médecin et des soins qu'il faut au pays, ou alors on est dans le cas d'une pathologie qui pourrait se soigner éventuellement que sur le territoire français.
Non, elle peut soigner là-bas, mais c'est malheureusement qu'elle peut pas rester seule maintenant là-bas, c'est pas possible. Elle a l'extrait de naissance français, elle a l'extrait de famille comme quoi elle est née en France et tout, elle a tout ça, hein, voilà. Hein.
Voilà. Alors, je vais vous dire la difficulté, madame, c'est que, donc vous m'avez dit qu'elle avait demandé des visas et ça a été refusé.
Oui, bon. Donc on voit ma mère malheureusement qui était souffrante ici, malheureusement.
D'accord. Bon, voilà. Derrière tout ça, c'est la philosophie, c'est quoi? C'est qu'évidemment les autorités consulaires vont refuser de lui attribuer un visa, en se disant tout simplement que votre sœur ne reviendra pas. C'est-à-dire que si vous indiquez que tous les membres de la famille sont sur le territoire français, que cette femme est seule sur le territoire algérien, il est certain que les autorités françaises vont vous refuser le visa en se disant que de toute manière elle viendra pas. Donc ce qu'il faudrait faire, alors il faut quand même demander le visa, mais ensuite si le visa est refusé, selon moi il sera à nouveau refusé, dans ce cas-là peut-être engager les procédures pour contester ce refus de visa. Donc d'abord devant la commission de refus des visas, éventuellement devant le tribunal administratif de Nantes, mais il va falloir d'abord contester ce refus et tous les arguments que vous avez évoqués tout à l'heure, donc à savoir tous les membres de la famille sur le territoire français, il est certain que ce sont des arguments qui pourront être mis en avant. Mais là, il faudrait, enfin sauf si sa demande, en tout cas son refus de visa est récent, mais si c'est pas récent, donc il faudrait qu'elle sollicite une nouvelle demande de visa et puis en cas de refus, dans ce cas-là, contester immédiatement.
D'accord, ok. Mais je dois vous rappeler à ce moment-là?
Bah à ce moment-là, vous pouvez rappeler, il n'y a pas de difficulté et puis on regardera ça ensemble.
D'accord, merci beaucoup. Merci.
Merci à vous pour votre appel.
Bien, Maître Serran, rassurez-vous, tout va bien, tout est sous contrôle. Je vois un peu paniqué, Maître Serran, vous allez voir. On l'a laissé rentrer.
Type qui fait 2m15, qui est juste derrière moi, je ne sais pas pourquoi.
Patibulaire, mais presque. Mais moi, je sais pourquoi il est là, Maître Serran.
D'accord.
C'est suite à votre chronique.
Ce monsieur est sympathique ou j'ai dit quelque chose. Donc je vais le saluer.
Voilà, vous pouvez le saluer. Allez, Maître Serran répond à vos questions. C'est tout droit jusqu'à midi sur Beurre FM.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître Serran qui répond à vos questions en direct. Il y a du monde dans la salle d'attente, Maître Serran. Ouais. Oui, il y a Djamila qui nous appelle du nord de la France, Valenciennes. Bienvenue, Djamila.
Oui. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour, Djamila.
Oui. Oui, bonjour. Je vous le demandais parce que j'étais au Maroc pour faire un mariage. Je passais à Consolia le 15.
Ouais.
En enquête.
Ouais.
Je veux savoir comment je veux faire maintenant.
C'est-à-dire, donc, vous avez été entendu par les représentants consulaires. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent, pour que nos auditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'ils veulent vérifier si le mariage n'est pas un mariage blanc ou gris. Si c'est un véritable mariage, pour éventuellement vous remettre un visa que vous puissiez venir vous installer sur le territoire français. Donc voilà. L'entretien a eu lieu il y a combien de temps?
Passé une heure.
D'accord. Mais c'était il y a longtemps, il y a plusieurs jours?
Non, je fais le demande le 15, je rentrais même pas 10 jours, le 15.
D'accord, et après l'entretien, ils vous ont dit quoi? Qu'ils allaient vous donner une réponse, ils ont donné un délai particulier ou pas?
Il m'a dit, tu vas voir un papier à la mairie, après le papier, je crois c'est lent. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit.
Alors, donc manifestement, ça vous a pas été bien expliqué, c'est-à-dire que encore une fois, vous avez un entretien avec une personne...
Oui.
Qui est au sein des autorités consulaires. Donc, ils veulent vérifier. J'imagine qu'ils vous ont peut-être posé des questions sur dans quelles conditions vous avez rencontré monsieur. Quels sont vos projets de vie, la situation de monsieur, la vôtre. Est-ce qu'il était marié avant ou pas? Bon, enfin voilà, ils veulent s'assurer si tout est ok. Et à partir du moment où ils considèrent entre guillemets qu'il n'y a pas de doute sur la volonté de se marier avec monsieur, ils vous remettront une fois que le mariage donc sera définitivement formalisé, donc ils vous remettront un visa donc pour venir vous installer sur le territoire français. Donc
il m'a dit capacité de mariage, c'est lent, je crois qu'il va donner, je sais pas.
Ah oui, non mais alors au niveau de timing, oui, ça va être un petit peu long puisque là vous en êtes entre guillemets qu'à la première étape de cette procédure. Ce qui va en découler après, c'est ça qui va être important, c'est-à-dire que de deux choses l'une, donc soit on dit bon bah écoutez, on considère que c'est un mariage sérieux, un mariage d'amour, et puis on vous autorisera à venir sur le territoire français. Soit on pourrait considérer que, encore une fois, que ce mariage est un mariage, encore une fois, blanc, c'est-à-dire que c'est un faux projet, c'est juste pour que vous puissiez avoir un visa, venir en France et obtenir des papiers, peut-être après vous séparer de monsieur. Et à partir de ce moment-là, donc si vous avez un refus dans ce sens-là, vous pourrez éventuellement le contester. Mais là, pour l'instant, dans ce que vous m'avez décrit concernant cette procédure, pour l'instant, tout est normal. C'est normal que les autorités consulaires puissent vérifier la réalité de ce mariage.
Monsieur était
marié avant ou pas? Il avait des enfants?
Non, j'avais des enfants, non.
Il a quel âge et vous avez quel âge? Il y a un écart d'âge important entre vous?
Oui, moi, lui, il a 45 ans et moi, j'ai 54.
Alors... Donc, voyez, c'est terrible, mais c'est la société qui est comme ça. C'est-à-dire que quand monsieur est plus âgé que madame, encore une fois, tout le monde considère que c'est normal. Mais je ne vous cache pas, madame, qu'en la matière, et en particulier donc pour ces histoires, entre guillemets, de papier, les autorités françaises, les autorités consulaires sont très pointilleuses. C'est-à-dire que quand on considère qu'il y a un écart d'âge entre monsieur et madame, et en particulier lorsque monsieur est plus jeune que madame, souvent... C'est terrible. Souvent, on considère que c'est pas un mariage d'amour, mais c'est un mariage pour que, donc en l'occurrence vous, puissiez obtenir des papiers. Donc, c'est peu probable. Alors, j'espère me tromper. C'est peu probable qu'ils puissent vous donner gain de cause. Il faudra peut-être contester cette décision. C'est terrible, ça. Encore une fois, je dis pas que quand madame est plus âgée que monsieur, que le mariage est forcément bidon, mais vous voyez, le raisonnement qu'on a, qu'on le veuille ou non, c'est plutôt ça. On considère que quand monsieur est plus âgé, ça pose pas de problème. Donc, voilà. Donc, il pourrait, entre guillemets, tiquer là-dessus. Il pourrait vous titiller là-dessus. Après, ça se conteste, hein. Il n'y a pas de difficulté. Mais vous partez pas sur les meilleures bases pour obtenir, entre guillemets, le feu vert des autorités consulaires. Voilà. Merci à vous pour votre appel.
Jamila, merci pour votre appel. Bon, évidemment, Maître Serran, vous dites toujours ce que vous pensez, finalement. Alors, c'est Karim qui est avec nous. Bienvenue, Karim.
Allô ?
Oui, Karim, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître.
Bonjour Karim.
Alors, moi, je voulais poser une question à Maître, concernant mon beau-père.
Oui.
Qui était là dans les années 80. Et après, il avait ses papiers. Et après, je sais pas quoi ça s'est passé. Donc il est rentré, il est rentré définitif au bled. Et là, à ce moment, c'est-à-dire, il est en retraite. Il a une petite retraite. C'est-à-dire, il touche une petite retraite d'ici. Et il voulait savoir, c'est-à-dire, comme il a déjà une fille qui est née ici. D'ailleurs, c'est ma femme qui est née ici sur le territoire français. Et elle voulait savoir, c'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de retourner ou.
Alors, je vais vous répondre en droit et puis je vais répondre au-delà de la notion de droit. Moi, je suis sincèrement, monsieur, d'avoir très surpris. Je pars du principe qu'à partir du moment où on est à la retraite, qu'il est logique d'aller, entre guillemets, dans son pays d'origine, et ce, d'autant plus que, mais j'imagine que pour ce monsieur, c'est la même chose, les anciens immigrés ont tous construit des maisons à minima de 200-300 mètres carrés au pays, et puis on constate qu'ils en profitent pas tant que ça. Donc on se dit, quand on est à la retraite, on peut rester au moins dans son pays. Après, bon, ça c'est un avis vraiment purement personnel.
Ah oui, merci de le partager avec nous, Maître Serra. C'est drôlement gentil à vous.
Je le partage avec nos auditeurs parce que, vous voyez ce que dit ce monsieur, c'est assez récurrent. C'est-à-dire que on a une personne qui était sur le territoire français, qui a travaillé en France et qui considère ensuite qu'elle doit retourner au pays. Donc elle décide définitivement de renoncer à sa carte de résidence et donc d'aller au pays. On peut se poser la question légitimement. Moi, qu'on désire faire un aller-retour en France, pourquoi pas, vous voyez, jouer le touriste. Mais qu'on décide de revenir, c'est-à-dire qu'on... Encore une fois, il n'est pas tout jeune par définition, mais qu'on décide de revenir sur le territoire français en disant bon bah je vais revenir là où j'ai entre guillemets eu ma vie, où j'ai travaillé. C'est vrai que intellectuellement, moi, ça me perturbe un peu. Maintenant, c'est un choix. Le fait, je vais vous dire ce qui est un peu embêtant, c'est que les autorités administratives, monsieur, risquent de raisonner comme moi. C'est-à-dire qu'on va, voilà, on va lui dire, attendez monsieur, voilà, a priori en Algérie, enfin, il est de nationalité algérienne, ce monsieur ?
Oui.
Donc a priori en Algérie, comme dirait l'autre, on peut y vivre sans difficulté. Vous avez été résident sur le territoire français, vous avez vous-même. A priori, hein, c'est un choix. Il n'a pas été expulsé, c'est-à-dire qu'il a été au pays. Il a remis ses papiers. Alors le fait de dire oui, mais j'ai une fille qui est sur le territoire français. Bon, on va lui dire d'accord, mais j'imagine que cette fille n'est pas mineure, donc j'imagine que cette fille a peut-être une vie de famille. Ça, le fait de dire j'ai une fille qui est au pays, qui est en France, ça justifierait d'avoir des visas, c'est-à-dire pour faire des allers-retours, pour aller voir sa fille ou autre. Je ne sais pas, et selon moi, ça va être très difficile de dire j'aimerais revenir sur le territoire français, être résident sur le territoire français. Vous avez bien compris, c'est pas une critique ni à votre égard ni à l'égard de ce monsieur. Moi, je considère que le monde est à tout le monde, donc on a le droit d'aller où on veut. Mais juridiquement, ça me semble difficile d'expliquer aux autorités françaises un motif, voilà, qui serait suffisant pour dire à la France, bah si, il faudrait permettre à ce monsieur de revenir. Qu'il revienne pour des vacances, qu'il revienne pour un séjour, qu'il revienne pour voir sa fille ou autre, ou jouer le touriste en France, dont acte. On n'a pas d'argument assez sérieux pour dire il faudrait permettre à ce monsieur de revenir en France avec un titre de séjour.
Non, moi je dis, c'est-à-dire, c'est dans le cas où c'est facile de passer par là-haut.
Ah non, c'est pas facile, monsieur. Ouais, ça je vous le confirme. Voilà. Alors, mais il a déjà eu des visas, j'imagine.
Non, depuis qu'il est rentré, il n'est jamais revenu.
Alors, est-ce qu'il a demandé un visa?
Non, pas du tout.
Bon,
juste lui, il a pensé, parce que moi, quand j'ai rentré la dernière fois, il m'a dit, voilà, il m'a expliqué un peu sa situation, comme je la connais déjà un peu, et donc, il m'a dit, renseigne-toi là-bas, peut-être, si j'ai bien compris maintenant, c'est-à-dire, si vous voulez revenir, c'est-à-dire, il passe comme un touriste, il demande un visa pour revenir.
Non, mais monsieur, c'est pour jouer le touriste, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison. Si c'est pour s'installer en France, c'est peu probable. Et pour jouer le touriste, c'est jouable, bien sûr.
Bien, voilà ce qu'on pouvait vous dire, Karim, concernant cette situation. Dans un instant, Maître Serran répond à une autre question, 01-53-48-3000.
11h midi, c'est tout droit, avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi, c'est tout droit, avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Et si vous n'arrivez pas à passer à l'antenne pendant le direct, vous pouvez interroger Maître Serran par mail.
Sur maître.serhane@gmail.com.
Et vous l'appelez également sur son téléphone cellulaire.
Aussi au 06 62 58 59 64.
Très bien. Nous avons Nouria qui est avec nous. Et Nouria a composé le 01 53 48 3000. Bienvenue Nouria.
Oui, bonjour Maître Serhane.
Bonjour Nouria.
Je vous appelle pour...
Alors, Nouria, juste un petit mot, si vous avez le haut-parleur ou quelque chose qui ressemble, je veux bien que vous l'enleviez, ce sera plus simple pour vous entendre.
D'accord, ok.
Parfait, formidable. Allez-y, Nouria.
Donc, je vous appelle concernant ma mère. Elle est veuve d'un ancien combattant. Donc, mon faux-père, il a combattu dans les années 1939 et 1945 en France. Donc, après, il est reparti, il n'est plus revenu. Et là, ma mère, elle se trouve veuve, elle a un problème de santé. Elle est venue plusieurs fois en France, comme moi, je me suis mariée ici en France.
Ouais.
J'ai la nationalité, donc je la fais venir à chaque fois. Mais malheureusement, j'ai pas pu lui faire des papiers, puisqu'à chaque fois, dès qu'elle termine ses soins, elle décide de rentrer. Pardon.
Alors c'est vrai qu'il y a entre guillemets une règle, c'est-à-dire que il n'y a rien qui interdit de demander l'autorisation de résider sur le territoire français quand vous avez des problèmes de santé, quand on considère qu'au pays il y a soit pas les médecins qu'il faut, soit les médicaments sont pas dispo. Donc dans ce cas-là, la France peut vous autoriser à rester sur le territoire français et à vous soigner. Le contrat entre guillemets avec les autorités françaises, c'est quoi? C'est dire je vais vous autoriser à venir en France, vous allez vous soigner, mais une fois que vous irez mieux, c'est-à-dire que lorsque moi mon médecin de la préfecture considère que tout va bien, il va falloir repartir. Est-ce qu'une demande dans ce sens-là a d'abord été faite ou pas?
Oui, ça a été fait deux fois en 2003 et en 2013, mais malheureusement, dès qu'elle part, 10 jours après, je reçois la réponse de la préfecture pour un récépissé, la demande d'un récépissé, mais elle, comme elle est rattachée sur ma carte vitale, donc c'est vrai, elle a une carte vitale ici, elle prend ses soins gratuitement, par la Sécu, j'ai pas précisé exactement gratuit, c'est pas gratuit puisque je cotise, et je l'ai mise sur la mutuelle aussi de mon mari, mais c'est pas la raison, je vous appelle, puisque là, je voulais bien que lui fasse un visa vie famille privée pour qu'elle fasse la navette. Mais ma demande, c'était, j'ai demandé aux anciens combattants, comme elle est veuve d'un ancien combattant, d'avoir une aide. Et c'était pas possible, quoi. Ils m'ont dit la pension des anciens combattants dès qu'ils décèdent, la veuve, elle a plus le droit. Je sais pas si parce qu'elle réside en Algérie.
Non, c'est pas. Alors là, ce qu'on constate, c'est que l'administration française est moins généreuse avec les veuves d'anciens combattants quand ils sont à l'étranger. Vous voyez, en Algérie, c'est-à-dire qu'on va vous payer en dinars. Et quand vous convertissez en euros, ça correspond absolument pas aux montants qui sont perçus par les personnes qui demeurent sur le territoire français. Après, d'abord, est-ce qu'officiellement vous avez fait une demande écrite ou pas à ce service?
Si.
D'accord. Et vous ont répondu?
Qu'il fallait s'adresser à l'ambassade de France en Algérie.
D'accord, mais est-ce que donc vous avez fait une demande à l'ambassade de France en Algérie?
J'ai essayé de les contacter plusieurs reprises, j'ai pas pu. Par courrier, c'est pas possible, il faut sur Internet. J'ai envoyé un message, ils répondent même pas. Donc.
Alors, il faut savoir que l'ambassade de France en Algérie, c'est comme n'importe quelle autre administration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une demande. soit par écrit le support papier, soit par Internet. Vous allez calculer un délai de 4 mois. Si dans les 4 mois, vous n'avez pas de réponse, on considère que c'est un... En droit, on appelle ça un refus implicite. C'est-à-dire que l'administration a le droit de ne pas vous répondre par écrit. Elle a le droit, c'est comme ça. Mais vous allez calculer le délai. Si à partir de 4 mois, vous n'avez pas de réponse, on considère que c'est un refus. Et si on considère que c'est un refus, ça va vous autoriser à faire ce qui s'appelle du contentieux, c'est-à-dire à saisir un tribunal pour dire « j'ai fait une demande auprès de l'administration et puis ils m'ont refusé ». Dans ce cas, c'est un juge qui rendra la décision.
Malgré elle n'est pas là ?
Ah oui, quand bien même, il n'y a pas de difficulté, elle pourra se faire représenter, donc elle n'a pas besoin d'être physiquement présente sur le territoire français.
Ouais, puisqu'actuellement, elle est domiciliée en Algérie.
Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, donc elle n'est pas obligée d'être sur le territoire français. Mais il faut d'abord commencer par ça pour, entre guillemets, faire courir le délai et éventuellement aller ce qui s'appelle au contentieux, c'est-à-dire devant un tribunal. Mais il faut d'abord commencer par ça, donc faites la demande, si vous me dites que c'est que par Internet, et vous calculez 4 mois à partir de la date à laquelle vous avez fait la demande.
D'accord. Et ici, ils disent qu'elle ne peut pas bénéficier d'aucune aide. C'est normal ?
Ah, je sais pas, là, je vous dirais des bêtises. Vous voyez, il y a mille et une situations pour les uns et les autres, donc ce serait pas sérieux de vous dire comme ça spontanément, elle peut bénéficier de rien. Sincèrement, encore une fois, j'ai pas le détail de votre dossier, mais j'ai tout vu. C'est-à-dire qu'on a eu parfois des refus et que c'était des refus qui étaient justifiés, c'est comme ça. Et on a parfois des refus qui sont injustifiés, et puis des tribunaux, donc nous donnent raison. Donc, pour votre cas spécifique, je vous dirais des bêtises. Il me faudra davantage d'éléments pour que je puisse me prononcer.
D'accord. Non, puisque j'ai un article qui dit que après que le troisième avenant de l'accord franco-algérien a entraîné des changements profonds au niveau des conditions d'entrée en ou des séjournées en France. Enfin, séjour de ressortissant algérien. Notamment les possibilités d'obtenir une carte de séjour. Et en même temps de faire les démarches ici, quoi.
Oui, mais ça n'a pas de rapport avec ce que vous me demandez, madame. Vous vous en rendez compte? C'est-à-dire que vous me demandez si elle peut toucher éventuellement une pension en qualité de veuve de guerre. Il est où le rapport avec les conditions pour obtenir un titre de séjour?
Non, je me suis dit peut-être du moment qu'elle vivait en Algérie, c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à avoir cette aide.
Non, ça n'a pas d'incidence. On a des pensions de réversion, des pensions de retraite qui sont versées au pays là où les personnes demeurent. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit en Algérie ou pas. Ça n'a pas d'incidence. Ça n'interdit pas ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire ça n'interdit pas la procédure. Et selon moi, il vaudrait mieux peut-être se pencher là-dessus. Après, éventuellement, si vous souhaitez la faire venir pour rester sur le territoire, ça, ce sera une deuxième étape. Mais il vaudrait peut-être mieux se pencher là-dessus d'abord.
Merci Nouria pour votre question. Maître Serran, vous prendrez des appels dans un instant. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Le standard de C'est tout droit est à votre disposition jusqu'à midi.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître Serran, à qui vous posez vos questions? Un numéro, 01 53 48 3000 si vous avez des questions à poser à Maître Serran. Et c'est Bilal qui nous appelle de Paris. Bienvenue Bilal.
Bonjour Maître.
Bonjour Bilal.
Ouais. En fait, j'ai envie de poser une question pour Maître à propos d'un ami. Il est venu en France, ça fait 2 ans. Mais avant, il était là, il a eu un enfant ici, avec sa femme. Tous les deux sont des Algériens. Après, ils sont descendus en Algérie. Après, ils sont revenus. Et ils ont 2 enfants ici, ils sont restés ici. En plus, ils ont acheté un bien ici. Est-ce qu'ils peuvent avoir...
D'accord, mais dans le parcours de votre ami, vous me dites qu'il est venu en France, donc qu'il est venu de manière légale, c'est-à-dire qu'il avait un visa, légal. D'accord.
Même maintenant, il a un visa et tout, il a un visa de 5 ans, même lui, même sa femme...
D'accord, mais sa femme aussi, enfin monsieur et madame vivaient en Algérie ?
Ouais.
D'accord, donc votre question est de savoir si ce couple qui a un enfant, est-ce qu'il
y a... Ils ont 2 enfants, ouais. Le grand maintenant il est ici à l'école.
Ouais, il est scolarisé ici ?
Ouais.
Depuis longtemps ?
Depuis 2 ans.
D'accord.
Alors, voilà, ils ont acheté un bien ici.
D'accord.
Ils ont acheté leur propre moyen et tout.
Alors, encore une fois, ce serait pas sérieux de vous dire, Bilal, que dans ce que vous me dites, on remplit une case qui permettrait d'exiger des autorités françaises un titre de séjour. Il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir des enfants nés et scolarisés sur le territoire français, le fait de d'avoir également un bien donc qui a été financé et acheté par ce couple, ce sont quand même des éléments qui nous permettraient de solliciter auprès des autorités françaises donc un titre de séjour, une demande de régularisation. Mais je le redis encore une fois, ça va être quand même une bataille. Vous voyez, le fait, parce que souvent j'ai des clients qui me disent, maître, si j'achète un commerce, si j'achète un bien immobilier, est-ce qu'en soi c'est suffisant? Évidemment que non, mais il est certain que ça vous permet, en tout cas ça permettra à votre ami de distinguer son dossier des dizaines et des milliers de dossiers. Pourquoi? Parce que souvent, les autorités françaises considèrent que ceux qui viennent sur le territoire français, c'est, alors pardon pour l'expression qui est pas jolie, mais c'est entre guillemets pour gratter la France, c'est-à-dire que qu'en gros la France accueillerait tous les pauvres, et une fois qu'on est sur le territoire français, on viendrait demander des aides de la part de l'État français. Donc c'est l'image un peu qu'a l'État français des étrangers. Donc c'est vrai que on considère qu'à partir du moment où vous venez en France avec votre pouvoir d'achat, avec votre argent, que vous achetez un bien, vous enrichissez le pays. C'est un constat, c'est comme ça. Donc le dossier de ces personnes-là est regardé avec un œil bienveillant. C'est-à-dire qu'on va considérer que c'est vous qui m'apportez de la richesse et vous venez pas chez moi pour que la France puisse vous aider. Donc il réunit objectivement, comme on dit, les conditions. Maintenant, expliquez bien à votre ami que certes, les autorités préfectorales peuvent examiner le dossier avec bienveillance, mais je le redis, ça va pas être une partie de plaisir. C'est-à-dire que la préfecture pourrait refuser avec et elle a ou elle aurait plusieurs motifs. Donc c'est a priori, ce sont des affaires qui très souvent se terminent devant un tribunal administratif. Donc il faut quand même si, encore une fois, objectivement, son dossier est intéressant, il faut quand même le préparer, j'allais dire psychologiquement, à un vrai combat, et avec la préfecture, et avec le tribunal.
Donc, j'ai encore une autre question, s'il vous plaît.
Ah, tarif de groupe, là.
Alors, tarif de groupe.
Bilal, donc c'est x2, là.
Ah, d'accord, ok.
Ah oui, ça, Maître Serran est intraitable. Alors, quelle est votre deuxième question, Bilal?
En fait, j'ai mon grand-père, mon ancien grand-père, mon arrière-grand-père, il a fait, il était ici en France, engagé vers l'armée française et tout. Après, il est retourné en Algérie. Est-ce que l'ouvre droit à ces garçons de nationalité française ou pas?
Alors,
l'arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de votre père.
Ouais.
Alors, même chose, c'est-à-dire que ça aussi, on l'entend quasi quotidiennement. C'est pas parce que vous avez eu un père ou un grand-père qui a été un ancien militaire, soldat ou mobilisé, engagé. Enfin voilà.
Il est médaillé aussi.
Alors, quel que soit le statut, c'est-à-dire que la France, et pardon pour l'expression qui est pas jolie, mais est assez ingrate par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir été engagé, on a vu même des personnes avec une pièce d'identité française, et sur ce papier, c'est écrit République française. En soi, rien que ça, en soi, c'est pas suffisant pour automatiquement, on va dire, obtenir ensuite la nationalité des uns et des autres. Mais je le dis très souvent à cette antenne, ça vaut le coup de faire la procédure, ça vaut le coup de contester, puisque les autorités françaises nous disent tout le temps il y avait une différence entre le droit local et le droit qui s'appliquait, entre guillemets, on va dire, au vrai et bon français. Ça vaut le coup, ça a été confirmé. D'ailleurs, on a un auditeur qui avait eu la gentillesse il y a quelque temps de m'envoyer une décision du Conseil constitutionnel qui, à l'époque, avait été saisie, avait donné raison aux autorités françaises en disant que on avait le droit de faire une distinction entre les Français, entre guillemets, qui sont nés et qui vivaient en Algérie, et les Français de métropole. Donc ça vaudrait le coup d'avoir l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce genre de litige. Mais pour avoir l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, encore faut-il que des personnes comme vous, monsieur, puissent décider d'engager ces procédures. Donc, est-ce que techniquement c'est possible? Oui. Est-ce que c'est simple? Non. Et ce sont des procédures qui sont très longues. D'accord. Mais ça vaut le coup de le faire. Encore une fois, on appelle ça la jurisprudence. La jurisprudence, ce sont la jurisprudence, c'est le sens dans lequel des tribunaux rendent des décisions. Bah, plus on a des procédures de cette nature, plus les tribunaux, en tout cas les magistrats, vont se poser donc les vraies et bonnes questions. Donc ça vaut le coup de faire des procédures dans ce sens-là.
En plus, il est engagé 9 ans. Hein.
C'est pour ça que je vous dis, bon, après, encore une fois, on le prend comme on veut, mais les autorités françaises sont assez ingrates par rapport à ça. Il n'y a pas de reconnaissance. On a des personnes qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur sang pour la France, pour libérer la France. Ouais. Et puis, c'est vrai que, alors, je vais pas dire que la France s'en fout, ce serait pas sérieux le mot est un peu méchant, mais voilà, il n'y a pas de reconnaissance particulière. Non, elle s'en fout pas, mais elle est ingrate. En tout cas, dans ce type de dossier.
Ouais, je comprends. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Bilal, pour votre appel.
Merci à vous aussi. Allez, au revoir.
Merci, Bilal. Et vous connaissez bien le mot ingrat, Maître Serran.
Oui, pourquoi?
Quand on a le physique de radio qui vous caractérise, c'est un mot que vous connaissez.
Ah, mais vous me cherchez en fait aujourd'hui.
Je vous cherche parce que venge toutes celles sur qui vous êtes défoulé depuis des années.
Toutes les grosses? Ouais. Bon, alors toutes les moches.
Maître Serran.
Toutes les laides.
Voilà, j'aurais pas dû. Maître Serran, pour tous ceux qui n'ont pas pu et qui sont très nombreux à attendre ce matin, vous joindre et qui voudraient vous dire ce qu'ils pensent de votre humour, on vous appelle sur votre téléphone portable.
M'envoyez leurs photos aussi, 06 62 58 59 64. J'ai un logiciel qui sélectionne que les jolies filles, donc les boudins, vous oubliez.
C'est vrai?
Non.
Comment ils savent?
Maître.Serran, serhane@gmail.com.
Très bien, on vous retrouve la semaine prochaine, Maître Serran. Dans un instant, les exploits du chef, les recettes du chef. Voilà, Manu, les bons tuyaux est déjà là. On attend le chef Voilà, bien évidemment. Et nous ferons la connaissance avec un nouveau média qui s'appelle Foodies TV. Et c'est une chaîne consacrée à la nourriture halal. On en parlera dans un instant.
11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.